enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
J'aimerais bien ce soir aborder un message que j'aime beaucoup. Le titre de ce message, c'est « La présence de Dieu ». Et c'est vrai que de manière très particulière, autant dimanche que tout à l'heure, je sentais la présence de Dieu. La présence de Dieu était, je dirais, quasi palpable. Et lorsque Dieu est présent, il manifeste sa grâce. Amen. J'aime ce verset, dans ce chapitre dans le psaume 16, verset 11, dans la version du Semeur. Il est dit ceci, « Tu me feras connaître le chemin de la vie ». Plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. Je répète ce verset. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie dans ta présence et bonheur éternel auprès de toi. Êtes-vous dans la joie de la présence de Dieu ce soir? Amen. Trois parties à mon message. Première partie, la présence de Dieu éclaire notre état et nous emmène à faire un choix. Seconde partie, la présence de Dieu nous dirige vers les desseins de l'Éternel. Et puis troisième partie, la présence de Dieu engendre en nous une soif de rester dans sa présence. J'aimerais aborder le thème de la présence de Dieu avec un fil conducteur qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et qui parle de l'Arche de l'Alliance. Lorsqu'il est parlé de l'Arche de l'Alliance dans l'Ancien Testament, il nous est parlé de la présence de Dieu. Premier point, la présence de Dieu éclaire notre état et nous amène à faire un choix. Oui, chaque fois, ou plus ou moins souvent, lorsque l'Arche de l'Alliance était là, présente lors d'une bataille entre le peuple d'Israël et ses ennemis, parce que l'Arche de l'Alliance était symbole de la présence de Dieu, lorsque Dieu était avec Israël et en particulier l'armée, eh bien il y avait des victoires. Rappelez-vous, dans le livre de Josué, la première bataille lors avec ce peuple qui est le peuple de Jéricho. Il y avait là, devant l'armée, les trompettistes. Et puis derrière les trompettistes, il y avait l'armée, et derrière l'armée, les sacrificateurs qui portaient l'Arche de l'Alliance. Et 13 fois, pendant 7 jours, ils ont fait le tour de la ville de Jéricho qui était entourée par les murailles. Et la 13e fois, ils ont chanté, crié, et les murailles sont tombées. Pourquoi ? Parce que la présence de Dieu était au milieu du peuple d'Israël. Et lorsque nous désirons remporter des victoires face à des ennemis tels Jéricho, qui semblent être comme des murailles devant nous, il nous faut être remplis, entourés de la présence de Dieu. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 4, il est parlé, et j'aimerais aborder ce soir une partie de la route qu'a fait l'Arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 4, je raconterai l'histoire. C'est un petit peu long à lire, mais je prendrai certains passages de ces chapitres et vous pourrez le relire à la maison. Il est parlé là d'une guerre contre un peuple qui était ennemi de l'armée d'Israël et du peuple d'Israël. Il s'appelle les Philistins. Les Philistins étaient comme une écharde dans la chair du peuple d'Israël. Et continuellement, les Philistins bataillaient contre le peuple d'Israël. Et dans ce texte, 1 Samuel chapitre 4, il est dit, lorsque vous lisez l'histoire, qu'une fois de plus, les Philistins, eh bien, ont voulu combattre le peuple d'Israël. Et ils ont été, d'abord, ils se sont fait battre, ou ils ont perdu 4000 hommes. Après avoir perdu ces 4000 hommes, le peuple d'Israël a réfléchi et s'est dit, mais finalement, eh bien, l'Arche de l'Alliance, qui était synonyme de la présence de Dieu, n'est pas au milieu de nous. Donc cherchons l'Arche de l'Alliance, mettons-la au milieu de nous et il est certain que Dieu sera présent. Et lorsque vous lisez le texte, vous voyez qu'avant que la bataille ne continue, déjà le peuple d'Israël criait victoire. Que s'est-il passé? L'Arche de l'Alliance était là. Et bien que l'Arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu, soit là, le peuple d'Israël a essuyé une cuisante défaite. 30 000 hommes, en plus des 4 000 précédemment, sont morts. Et l'Arche de l'Alliance a été pris, volé par les Philistins et amené dans le peuple des Asdodiens. Vous savez, je crois que souvent, on a l'impression que c'est l'Arche de l'Alliance en tant qu'objet qui permettait au peuple d'Israël de gagner des victoires. Mais j'aimerais vous dire que l'Arche de l'Alliance en tant qu'objet, si la présence de Dieu n'est pas là, ne peut rien faire. L'Arche de l'Alliance, aussi belle fut-elle, c'était un coffre de 1,30 m de long, 70 cm de large, recouverte d'or, avec des chérubins au-dessus. Ceux qui l'avaient fabriqué étaient inspirés de Dieu. Mais l'Arche de l'Alliance, bien que présente, et bien que symbolisant la présence de Dieu, n'a pas permis ce coup-ci à Dieu eh bien, de défendre son peuple, le peuple d'Israël. Souvent j'ai l'impression, et il m'est arrivé en tout cas de voir des personnes qui mettaient leur confiance dans des objets, des croix placées dans une maison, des personnes qui réclamaient de cette croix la présence de Dieu pour que Dieu agisse. Différents objets, je ne les citerai pas ce soir. Peut-être également, cela peut représenter des prières répétitives que l'on fait l'une derrière l'autre comme une formule magique. Et certains pensent qu'en répétant certaines prières comme une formule, on obtient l'intervention de Dieu. D'autres peut-être utilisent même le nom de Jésus en pensant que dans le nom de Jésus se trouve la puissance de Dieu. Or, ce n'est pas dans le nom même de Jésus que se trouve la puissance de Dieu, que se trouve la présence de Dieu. Regardez, Actes chapitre 19, les fils de Sceva. Il est dit d'eux qu'ils étaient, Actes 19, 13, des exorcistes juifs. Il est dit d'eux qu'ils étaient pourtant fils de sacrificateurs très connus en Israël. Et pourtant, quand ils ont essayé de chasser des démons, il est dit qu'ils ont été maltraités. Pourquoi ? Parce que les démons ont dit que le Jésus que vous priez, nous ne le connaissons pas. Oui, nous connaissons le Jésus que Paul prie parce que Paul est rempli de la présence de Dieu. Mais ce nom-là, dans la bouche des fils de Sceva, n'avait aucune puissance. Parce qu'ils n'étaient pas revêtus de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu. Mettons-nous notre confiance dans des objets, dans des prières répétitives, voire même dans le nom de Jésus, alors que Dieu n'y est pas pleinement présent. J'ai une collègue de travail, un jour, je suis allé la voir et elle me disait que, eh bien, elle venait de voir un rebouteux, un diseur de Bonaventure. Et la raison pour laquelle elle est allée le voir, c'est parce qu'elle avait de l'asthme. Et elle me dira la chose suivante, cet homme a utilisé le nom de Jésus à prier pour moi afin que je sois touché. Et elle me regarde en souriant et me disant, mais depuis je n'ai plus d'asthme. Alors je la regarde, je lui dis, tu as plus d'asthme, mais comment vas-tu toi? Comment te portes-tu? Et elle me dit, c'est étonnant que tu me poses la question, parce qu'il est vrai que depuis que je reviens de cet homme, oui je n'ai plus d'asthme, mais je suis dépressif. J'ai des pensées suicidaires qui me viennent là. Utiliser le nom de Jésus à mauvais escient n'attire pas la présence de Dieu. Et je crois que la raison pour laquelle Dieu n'a pas pu être présent à ce moment-là avec le peuple d'Israël contre les Philistins, elle se trouve dans 1 Samuel chapitre 4 verset 4. Et il est dit là, les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Ophni et Phiné, qui étaient sacrificateurs, mais qui néanmoins avaient une conduite coupable. Ils blasphémaient Dieu. Ils couchaient avec les femmes qui étaient là présentes. Et j'aimerais vous dire que Dieu est un Dieu saint. Et lorsque nous voulons invoquer la présence de Dieu, nous devons considérer que le Dieu que nous invoquons est un Dieu saint qui ne peut pas cohabiter avec le péché. Et si à ce moment-là, Dieu n'a pas pu manifester sa présence, bien que l'arche de l'Alliance soit là, symbole de la présence de Dieu, c'est tout simplement parce qu'Ophni et Phiné blasphémaient Dieu. Et Dieu ne peut pas répondre à des hommes pécheurs. Dieu ne peut pas cohabiter avec des pécheurs, ou tout au moins avec le péché. Dieu aime les pécheurs, mais il a en horreur le péché. Ophni et Phiné continuaient à pécher. Ils persévéraient dans leur péché. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Néanmoins, ils continuaient. Et Dieu ne pouvait pas être présent. Il ne pouvait pas les bénir. Sa présence n'était pas là. Et puis la suite de l'histoire, dans 1 Samuel chapitre 5, il est dit des Philistins qu'ils transportèrent l'arche à Asdod, chez les Asdodiens, ennemis du peuple d'Israël. Et là, ils ont déposé l'arche dans un temple dans lequel se trouvait un faux dieu, Dagon. Et lorsque l'arche était à côté de Dagon, la nuit est venue, et pendant la nuit, Dagon est tombé, la statue est tombée. Les Asdodiens arrivent le matin, ils la relèvent, pensant que c'était une brise qui l'avait fait tomber. Et puis voilà qu'arrive le surlendemain, ils voient leur dieu Dagon tomber, non seulement tomber, mais décapité, avec les bras arrachés. Un faux dieu. J'aime ce qu'il est dit dans la parole de Dieu, quand il est dit qu'un jour tout genou fléchira, et toute bouche confessera que Jésus est Seigneur. Il n'y a personne d'autre devant lequel nous devions nous prosterner. Et un jour même, ceux qui ont refusé de se prosterner devant ce Dieu, devant ce merveilleux Seigneur qui veut être présent dans notre vie, un jour ils seront obligés de se prosterner et de dire il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Pour beaucoup, malheureusement, ce sera trop tard. Et puis, évidemment, vu les fléaux que Dieu envoya sur le peuple d'Asdod parce qu'ils avaient l'arche de l'Éternel, eh bien les Asdodiens ont emmené l'arche de l'Alliance à Gath. Et à Gath rebelote des fléaux, des hémorroïdes. Ça fait souffrir certainement les hémorroïdes. Hein, j'ai jamais vécu ça. Hein. Et puis ils ont emmené l'arche à Écron. Évidemment, ils s'en débarrassaient. Hein. Finalement, on s'en débarrasse. Certains, des fois, font ainsi. Plutôt que de réaliser que Dieu veut être présent dans leur vie, ils se débarrassent de Dieu. Et alors, ils ont emmené l'arche à Écron, et là, rebelote les hémorroïdes. Hémorroïdos, comme disaient certains. J'aime ce passage qui dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Comme quelques-uns le croient. Il reviendra, c'est sûr. Mais il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Vous savez pourquoi Dieu, à mon avis, a envoyé des fléaux sur les Philistiens, les Asdodiens et ses peuples ennemis? C'est parce que je crois qu'au travers de ces fléaux, Dieu voulait leur montrer qu'il était, par sa présence, le Dieu Tout-Puissant. Plus fort que les faux dieux qu'ils adoraient. Et Dieu, au travers de cela, montrait combien il les aimait et voulait les attirer. Voyez-vous, nous devenons ennemis de Dieu lorsque nous péchons. La Bible dit nous sommes ennemis de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, a peut-être permis sur certaines de nos vies des fléaux qui nous ont permis de le chercher. Et en le cherchant, nous l'avons découvert comme un Dieu qui nous aime. Dieu est cette lumière qui éclaire ce que nous sommes réellement devant lui. Et lorsque le Dieu Saint se montre à nous, à l'image de sa sainteté, nous réalisons combien nous avons besoin de sa grâce. Amen. Il éclaire notre péché. Il éclaire ce que nous sommes. Quand j'étais plus petit, ça fait longtemps de cela, Svara in Mal, quand nous faisions des sapins pour Noël dans notre famille, j'aimais décorer les sapins. Alors on y mettait des guirlandes qui illuminaient le sapin. On y mettait des boules, des étoiles, différents objets. Mais ce que j'aimais particulièrement mettre, c'était les petits chocolats qu'on accrochait. Ah, certains s'en rappellent, hein. Mais plus que les chocolats que je mettais, c'est les chocolats que j'enlevais et que j'aimais. Et puis j'attendais que les guirlandes qui étaient sur le sapin, qui illuminaient le sapin, s'arrêtent de briller pour que dès que la pièce était noire, je me faufile auprès du sapin pour arracher les chocolats qui s'y trouvaient. Et qu'est-ce que je les aimais, ces chocolats? Mon seul souci, c'est que quand on se retrouvait devant le sapin avec la famille, mon souci était que les guirlandes se rallument de nouveau. Parce qu'elles mettaient à jour mes méfaits. Et la lumière des guirlandes montrait non plus des chocolats, mais des ficelles avec des bouts de papier qui restaient sur le sapin. Et je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, tout le monde me regardait. Hein. Je devais avoir une tête ou un estomac de mangeur de chocolat. De même, la présence de Dieu, la lumière de Dieu qui éclaire nos vies, montre l'état dans lequel nous sommes. Et il nous faut, non pas comme ce peuple-là, refuser la présence de Dieu qui nous emmène à la repentance, mais il nous faut dire, Seigneur, ok, à ta lumière, à l'image de ta sainteté au travers de laquelle je me vois, je réalise, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu interviennes. J'ai besoin que tu te manifestes dans ma vie. Nous parlions tout à l'heure d'Ophni et Phiné. Ils sont morts à cause de leur persévérance dans le péché. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort de ceux qui pêchent. Ce que Dieu veut, c'est que ceux qui pêchent se repentent et vivent. Amen. Deuxième point, la présence de Dieu nous dirige vers les desseins de Dieu. Plutôt que de reconnaître la présence de Dieu au travers des fléaux qui atteignaient les peuples ennemis d'Israël, plutôt que de reconnaître que ce Dieu-là qui était présent au milieu d'eux voulait les toucher, les sauver, intervenir dans leur vie, ils ont essayé de se débarrasser de la présence de Dieu. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, 1 Samuel 6, construit un char. Sur ce char, ils ont mis l'Arche de l'Alliance. Et à côté de l'Arche de l'Alliance, ils ont mis des tumeurs qui représentaient leur fléau, mais pas n'importe quoi, des tumeurs en or. Des choses qui représentaient leur fléau, ils en ont fait de l'or et ils les ont mis sur le char pour les offrir. Cela me rappelle des fois des personnes qui, pas ici évidemment, hein, mais des personnes qui viennent uniquement pour obtenir de la part de Dieu la bénédiction de Dieu. Ils sont prêts à tout offrir pour recevoir de la part de Dieu la guérison. Mais aussitôt qu'ils ont reçu la guérison, ils repartent parce que finalement ce qui les intéresse, c'est pas la présence de Dieu. Du moins pas la présence permanente de Dieu, ce n'est qu'uniquement la présence de Dieu, le temps de la guérison. Et une fois que la guérison a été accomplie, eh bien on veut continuer à vivre comme l'on vivait avant. Alors que Dieu peut de temps à autre utiliser le fléau, pour aller à la racine du fléau, pour aller là où se trouve la raison du fléau, le péché, afin que la personne soit touchée et change de vie, se repente. Eux voulaient la guérison, ils ont offert des holocaustes, des sacrifices à Dieu, mais ils ne voulaient pas changer de vie, pas changer de comportement. Alors ils ont mis l'Arche de l'Alliance sur un char et ils ont éjecté Dieu. Et puis la suite est intéressante. Ils ont pris deux vaches qui étaient en train d'allaiter. Et ils ont pris les petits de ces vaches et ils les ont enfermés dans un enclos. Et ils se sont dit que si les vaches qui transportaient l'Arche de l'Alliance allaient jusqu'à Beth Shemesh, sans se détourner ni à droite ni à gauche, sans faire ce que naturellement elles auraient dû faire, à savoir parce qu'elles étaient en train d'allaiter leurs petits, retourner en direction de leurs petits pour les allaiter, ce qui est normal. Mais si la présence de Dieu se trouve là, alors les vaches ne doivent ni se détourner ni à droite ni à gauche, mais aller en direction de Beth Shemesh et ne pas retourner vers le petit. Et là, nous saurons que les fléaux n'étaient pas un hasard, mais venaient de Dieu. Et regardez ce qui s'est passé dans 1 Samuel, chapitre 6, verset 12. C'est vachement intéressant. Hein, il est dit là, les vaches prirent directement le chemin de Beth Shemesh Elles suivirent toujours la même route en mugissant et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Ce que je trouve intéressant dans ce texte, c'est qu'il est dit que les vaches mugissaient. Et voyez-vous, je crois que nous de même, il se peut que Dieu nous envoie dans des endroits où naturellement, nous ne voulons pas et ne désirons pas aller. Il se peut que comme les vaches ici présentes, Dieu veuille nous envoyer dans des lieux où nous ne voulons pas aller. Plutôt, nous avons envie de retourner en arrière. Et alors nous mugissons. Me Seigneur, mais je peux pas faire ce que tu me demandes, je suis trop timide. Hein, rappelez-vous Moïse. Me Seigneur, mais je veux changer de direction. Je veux retourner derrière. Pourquoi? Parce que je suis le plus petit de la plus petite des familles. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? On m'a toujours dit que j'étais nul et incapable. Alors on mugit. Seigneur, que ta présence, même s'il m'arrive de mugir, même s'il m'arrive par mes paroles de me rebeller parce que je ne comprends pas forcément le dessein de Dieu, même s'il m'arrive de me rebeller, Seigneur, permets que mes mugissements ne t'empêchent pas d'accomplir ton dessein avec ma vie. Amen. Et la présence de Dieu en vous vous aidera à aller dans des endroits où naturellement vous n'avez pas envie d'aller. Lorsque la présence de Dieu est forte sur vos vies, alors c'est la présence de Dieu qui va vous mener là où naturellement peut-être vous n'avez pas envie d'aller. Mais sa présence sera tellement là, elle sera tellement présente comme elle a été présente là, que Dieu vous conduira malgré vous. Quand Samuel un jour a dit Bertrand, je voudrais que tu rentres dans l'équipe pastorale, il y a une chose qui m'est venue dans la tête, c'est tout, oui, Me Seigneur, tout, mais pas monter sur l'estrade. Je pourrais jamais parler devant une si éminente assemblée. En plus, c'est chaque fois multiplié par 2 yeux qui me regardent, hein. Alors 1000 personnes égale 2000 yeux qui me regardent, 2000 oreilles qui m'écoutent. Seigneur, jamais je pourrais. Lorsque je suis allé en réunion de prière, j'ai prononcé ma première prière, c'était une phrase très courte au bout d'un an et demi de présence dans une réunion de prière. Seigneur, comment veux-tu que je parle ici? Je sais pas ceux qui se rappellent ma première prédication. J'avais ma Bible en main et je circulais de là jusqu'à là-bas et mon nez était collé à la Bible. Et de temps en temps, furtivement, je lançais vite un regard sur l'assemblée. Et je disais, mais Seigneur, je suis trop timide. Mais la présence de Dieu était telle que Dieu m'a conduit là où je ne voulais pas aller. Mais finalement, ce qui est important, c'est son dessein à lui. Lorsque je suis allé dans les quartiers difficiles, je disais, Seigneur, je n'aime pas tout ce qui est violence et toutes les formes de violence, j'en ai horreur. Et tu veux m'envoyer dans les quartiers difficiles où se trouve là même la violence? Jamais je ne pourrais y aller. Alors je trouvais toutes les excuses. Mais au bout d'un moment, la présence de Dieu était tellement forte. Elle était tellement présente sur ma vie. Dieu a mis sur mon cœur une telle compassion de ces personnes qui étaient là et qui souffraient. Je ne pouvais pas ne pas y aller. Bien sûr que naturellement, j'aurais préféré rester devant ma télé. Bien sûr que naturellement, j'aurais préféré me mettre à genoux dans mon salon et prier pour ceux qui servent le Seigneur. Et béni soient ceux qui le font, nous avons besoin de vous. Mais la présence de Dieu était tellement forte que sa présence m'a conduit. Et je bénis le Seigneur aujourd'hui qui me demande d'aller encore plus loin que cela. Mais Seigneur, même si naturellement je ne veux pas le faire, oh que ta présence soit telle que tu me permettes de te servir afin d'être non pas là où moi je le veux, mais là où tu me désires toi. Et c'est là alors que tu me béniras. Amen. Proverbe, chapitre 16, verset 9, il est dit, le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe, chapitre 19, verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Troisième point, La présence de Dieu engendre en nous une soif de rester dans sa présence. 20 ans plus tard, David devient roi en Israël. Et le désir de David, qui aimait le Seigneur tout son cœur, quant à l'arche qui était symbole de la présence de Dieu, c'était que l'arche revienne dans le pays. Alors David a voulu faire une grande fête, il a construit une tente dans laquelle il voulait placer l'arche de l'Alliance, afin qu'elle reprenne sa place et que le peuple d'Israël puisse adorer le Seigneur. C'était le désir de David, mais en attendant de préparer la fête pour le retour de l'arche, il fallait déposer l'arche quelque part. Alors ils l'ont déposée chez un homme qui s'appelle Obed-Édom. Obed-Édom faisait partie du peuple des Édomites. Et lorsque vous regardez le peuple des Édomites, ils étaient descendants d'un homme qui s'appelle Ésaü. Ésaü, vous vous rappelez de lui ? Celui qui a vendu son droit d'aînesse pour une soupe de lentilles, un morceau de pain. Obed-Édom était de cette descendance-là. Et il aurait pu se dire, mais qu'est-ce que Dieu veut être présent chez moi alors que je fais partie d'une famille qui finalement, au travers de ses actes, eh bien, a vendu la bénédiction de l'Éternel. Comment aujourd'hui puis-je être béni? J'aimerais vous dire, quelle que soit l'origine de votre famille, peut-être pleurez-vous pour des familles qui ne croient pas en Dieu. Et peut-être aussi longtemps et aussi loin que vous pouvez regarder, vous voyez que des hommes incrédules, rebelles à Dieu. J'aimerais vous dire, cela n'a pas d'importance, c'est dans ta vie que Dieu veut être présent. Et même si tu vis cela, Dieu veut être présent dans ta vie. Obed-Édom était de Gath. Gath était le pays d'origine de Goliath, le géant. Peut-être que dans ta vie, tu as des géants. Comme les murailles de Jéricho desquelles je parlais tout à l'heure, ils se dressent devant toi. Mais j'aimerais te dire, la présence de Dieu te permettra de vaincre les géants. Et puis Gath était la ville dans laquelle Saül a poursuivi David. Et peut-être te fais-tu poursuivre par des pensées, par des idées qui disent, mais moi jamais je pourrais servir l'Éternel. Jamais j'y arriverai. Jamais je peux aller là où Dieu veut m'envoyer. J'ai un tel passé. Et aujourd'hui, mon passé se lit sur mon présent. J'aimerais te dire, quel que soit ton passé, si tu invites Dieu à être présent dans ta vie, alors c'est pas toi, mais c'est sa présence qui se manifestera. Et si Obed-Édom pouvait dire de lui qu'il était petit, et que parce qu'il était petit, parce qu'il venait d'un endroit qui finalement représentait ce qui allait à l'encontre de Dieu, parce qu'il était petit, Dieu est venu dans sa vie. Et il a dit, bien, c'est dans ta faiblesse que j'accomplirai mon œuvre et que je me glorifierai. Si tu es petit, réjouis-toi. Dieu va glorifier son nom dans ta petitesse. Amen. Lorsque nous pensons que nous sommes grands, Dieu doit nous rendre petits. Et quand nous sommes petits, alors Dieu se glorifie. Amen. La présence de Dieu. Et il est dit dans 1 Chronique, chapitre 13, verset 14, « L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. » Tout, quand la présence de Dieu était dans sa maison, était bénie par l'Éternel. Sa femme était bénie. Quand elle venait, alors que de temps à autre, ils avaient l'habitude de se disputer. Je sais que ça vous arrive jamais à vous dans les couples, hein. Je parle vraiment pour Obed-Édom, hein. Eh bien, elle a été tellement bénie qu'elle est venue, elle dit, mon cher mari, que veux-tu que je te fasse? Oh, je t'aime, mon mari. Je ferai tout ce que tu voudras. Elle était devenue sage comme une image. Dieu l'avait bénie. Et puis peut-être avait-il au milieu de ses enfants un ado ou un pré-ado. Vous savez comment sont les ados et les pré-ados, hein. Ouais, je mâchais tout, moi. Wesh, qu'est-ce que tu veux m'apprendre, là? Je copie mon fils, là. Les jeunes des quartiers, des fois. Hein. Eh, wesh, quoi, qu'est-ce que tu me dis, toi? Mais il est dit que la maison d'Obed était bénie. Peut-être que son ado, avec qui il avait des conflits, est venu et lui a dit, papa, finalement, ce que tu as dit hier, tu avais raison. Et dorénavant, je décide de t'écouter parce que tes conseils sont sages. Est-ce que vous ne voudriez pas que vos ados deviennent comme ça? Alors invitez Dieu à être présent dans votre vie et dans votre famille. Et je crois que c'est la présence de Dieu qui va permettre aux gens de changer. Amen. Dieu était présent dans les biens d'Obed-Edom. Peut-être avait-il dans sa cave un vin du style Kiravi qu'on achetait en premier prix dans des magasins dont je ne citerai pas le nom pour pas faire de publicité. Et puis peut-être avait-il l'habitude, peut-être comme certains le font, de mettre ce vin dans une belle carafe en faisant croire que c'était du millésimé, je ne sais pas de quelle année, je m'y connais pas trop. Et puis en servant ce vin, les invités disaient « Mais qu'est-ce qu'il est bon ton vin, dis donc !» C'est la présence de l'Éternel. Peut-être êtes-vous là et vous êtes, je sais pas moi, endetté. Peut-être vous avez des problèmes de santé. Je sais pas ce que vous pouvez avoir, mais lorsque Dieu est présent, il se manifeste. Jeudi dernier, lorsque je revenais d'une réunion de prière, il y avait un mot sur la table. Et sur ce mot, il y avait un couple de Reims qui demandait que je les appelle en rentrant afin de prier pour eux. Je les appelle. Couple que j'aime beaucoup et ils me disent que voilà, nous avons une fille qui ne croit pas en Dieu, mais elle est enceinte. Elle est enceinte d'une petite fille de 24 semaines. Et ils ont, hier, en faisant les examens, les échographies, constaté que le crâne était trop petit et que cet enfant devait naître avec un défaut. Je suis encore léger quand je dis un défaut. Hein. De plus, l'enfant était retourné, donc à l'envers. Et alors nous avons prié au téléphone. Et en priant, j'ai senti une présence de Dieu. Et je dis à la famille, ne vous inquiétez pas, je sais Dieu va agir et vous m'appellerez demain pour me donner la bonne nouvelle que Dieu a agi. Le lendemain, elle me rappelle. Alors, bien que l'on soit, en disant cela, certain de ce que l'on dit, quand ils rappellent, on est un peu surpris qu'ils appellent. Et ils ont appelé le lendemain. Et ils me disent, écoute, je vais te dire une bonne nouvelle. Ma fille est allée faire l'échographie. Non seulement le crâne est tout à fait normal, mais la fille s'est retournée dans le bon sens. Et Dieu a agi. Mais vous savez ce qui me réjouit le plus? Ce qui me réjouit le plus, c'est quand elle a dit que nous avons prié pour elle. Sa fille a dit Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est ça qui me réjouit. C'est que au travers de l'œuvre que la présence de Dieu accomplit, des personnes se tournent vers lui et réalisent qu'il est vivant. L'autre jour, en ligne de prière, le mercredi matin, une femme m'appelle, me dit prier. Mon mari ou mon frère, je ne sais plus si c'était le mari ou le frère, il doit faire une opération très grave du cœur. Il a un cœur vieillissant et il ne tiendra pas quelques jours. Nous avons prié. Le jour d'après, la femme m'appelle et me dit, on a fait l'examen du cœur. Les médecins, quand ils ont vu le cœur, ils ont dit, mais on n'a pas besoin d'opérer, rien n'a besoin d'être fait, vous avez un cœur de jeune homme. Quand Dieu est présent, il manifeste sa gloire. Et je me réjouis pour cela. Une fois que Obed-Edom a découvert la présence de Dieu, quand il a goûté à la présence de Dieu, lorsque vous lisez la suite des textes dans le livre des Chroniques, vous voyez que partout où se trouvait l'arche, se trouvait, devinez qui ? Obed-Edom. Pourquoi ? Parce que la présence de Dieu était tellement bonne pour Obed-Edom qu'il ne voulait du coup plus la quitter. Alors quand l'arche a été déplacée, quand la présence de Dieu a été déplacée, il a suivi l'arche parce qu'il voulait être en présence de Dieu. Dans le livre des Chroniques, 1 Chroniques chapitre 15, 18 et 15, 24, il est dit qu'Obed-Edom était portier. Dans 1 Chroniques chapitre 15, verset 21, là où se trouvait l'arche, il est dit qu'Obed-Edom était musicien. On se trouve des talents, hein. Quand on a envie d'être dans la présence de Dieu, du coup, on se trouve des talents. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est pas d'abord les talents que Dieu nous a donnés, mais c'est d'être dans la présence de Dieu. Et lorsque vous servez Dieu, même si vous êtes portier, ça peut sembler être un petit service, bien que ce soit le lieu où se trouvait l'arche de l'Alliance, mais dans les petits services, Dieu est présent. Dans la louange, dans la musique, Dieu est présent. Il est dit dans la suite de ce texte, 1 Chroniques chapitre 15, versets 37 à 38, Obed-Edom était continuellement en train de servir Dieu. C'est dans le service de l'Éternel que Dieu est présent. Et lorsque vous réalisez que Dieu est présent alors que vous le servez, vous avez envie de le servir. Parce que quand vous avez goûté la présence de l'Éternel, vous avez encore davantage soif de sa présence. Et plus vous êtes dans sa présence, plus vous voulez être dans sa présence. J'aime ce que David dit dans le psaume, chapitre 27, verset 4. Il dit ceci. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je ne sais pas si vous avez des choses que vous désirez avec ardeur. C'est un mot qui est très fort, ardemment. Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Seigneur, ma prière, je ne désire rien d'autre que ta présence. Et quand tu es présent, oui, tu me montres l'état dans lequel je me trouve, afin que ma vie se mette au diapason de ta sainteté. Quand tu es présent, oui, tu me conduis à accomplir tes desseins, même si naturellement je n'y ai pas envie. Quand tu es présent, tu me donnes encore davantage soif de ta présence, parce que chaque jour dans ta présence, je découvre combien ton amour est merveilleux. Amen. Ce que je désire ardemment, c'est d'être dans ta présence. En conclusion, je ne peux pas finir sans parler de Jésus. Jésus était constamment dans la présence de son Père. Constamment. Partout où il allait, il aimait être dans la présence de son Père. Il était tellement bien dans sa présence lorsqu'il était auprès de lui. Mais il a choisi de descendre sur terre, s'est fait homme pour chacun d'entre nous. Cela ne l'a pas empêché de chercher la présence de son Père. Et pourquoi son Père l'accompagnait? Parce qu'il était présent dans la personne de Jésus. Et partout où il allait, il se faisait des signes, des prodiges et des miracles. Partout des vies étaient sauvées, des âmes étaient transformées, parce que Dieu était présent. Néanmoins, il y a un moment où Dieu n'a pas pu être présent dans la vie de Jésus. Et je pense que c'est à ce moment-là que Jésus a le plus souffert. Quand Jésus est monté sur la croix, il a porté nos péchés. Il a porté nos manquements. Et à ce moment-là, alors qu'il portait nos péchés, il a fallu que la présence de Dieu s'en aille de lui. C'est la raison pour laquelle Jésus dira, « Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu ? Pourquoi alors que tout au long de ma vie, j'aimais tellement ta présence ? Pourquoi à ce moment tu m'abandonnes ?» Simplement parce qu'il a fallu que Jésus, eh bien, porte nos péchés et se fasse malédiction. Et ce que je disais au départ de ce message, c'est que Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Et parce qu'il ne peut pas cohabiter avec le péché, à ce moment-là, il a fallu que Dieu le laisse. Et il était tout seul face à sa souffrance, face au péché qui l'écrasait. Il était tout seul. Mais il a fait cela. Pourquoi ? Pour que nous retrouvions la présence de Dieu que nous avions perdue à cause de notre péché. Pour que nous retrouvions la présence de Dieu que nous avions perdue à cause de nos péchés. Et si ce soir tu n'es pas comme Ophni et Phiné, tu veux dire, ok, jusque-là j'ai péché, je savais que le péché était là. Mais je veux me détourner de mon péché et venir à toi, oh Dieu. Je veux que ta présence se manifeste et que ta présence me libère du péché. Dieu viendra et assurément il vous touchera. Et par sa présence, il manifestera sa gloire, là peut-être où vous ne l'avez pas encore vécu, parce qu'il veut être présent, il vous aime tellement. Je voudrais peut-être que l'on prie ensemble. Et je demanderai à Sam si tu veux bien de venir et je lirai cette dernière phrase de David. Je voudrais laisser cette phrase dans vos cœurs. Je ne voudrais pas que cette phrase soit comme une formule magique. Lorsque Dieu a donné sa parole, il a mis sa présence dans les mots de sa parole. C'est pour cela que sa parole crée en nous la vie, parce que dans sa parole, il y a la présence de Dieu. David dira, psaume chapitre 27, verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. »
Enseignement.com
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.